Le journal de la rédaction, pardon, Clara Lecoq-Réal, bonjour.
Bonjour Florian, bonjour à tous. Des policiers et des gendarmes par milliers à Paris, des manifestations interdites dans certains centres-villes en France. La peur des casseurs entraîne un dispositif de sécurité accru. Nous reviendrons dans un instant sur cette sécurité, alors que certains gilets jaunes et syndicalistes appellent à la convergence des luttes.
Et nous irons ensuite au Venezuela, où une nouvelle journée de manifestation se profile. Hier, 69 personnes ont été blessées. L'opposant Juan Guaido dit avoir convaincu un groupe de militaires de se rallier à lui.
Ban Ki-moon s'occupe désormais de lutter contre la pollution de l'air en Corée du Sud. L'ancien secrétaire général de l'ONU aura fort à faire, vous le comprendrez, face à la pollution de la Chine.
Et puis dans ce journal, nous reviendrons aussi sur la carrière d'Anémone, comédienne populaire, surtout engagée, une fervente écologiste depuis des dizaines d'années. Anémone est décédée hier à 68 ans.
Et puis dans un quart d'heure, Frédéric Saïs nous rejoindra pour son billet politique avec cette question, le keynésianisme est-il de retour ? Y aura-t-il en ce mercredi 1er mai une certaine convergence des luttes? Des gilets jaunes défilant sous les drapeaux syndicaux. Il pourrait en tout cas y avoir une convergence vers Paris. Écoutez par exemple Marion, dijonnaise, gilet jaune sur le dos depuis plusieurs mois maintenant. Elle sera pour la première fois dans la manifestation parisienne aujourd'hui.
C'est plus possible quoi, le pays est en souffrance, les citoyens sont en souffrance. On crie notre souffrance et visiblement notre souffrance n'est pas entendue. Ça fait des mois que ça dure, des mois qu'on veut que ça change, que notre président nous écoute. Là, on va défendre énormément de droits, le droit du travail, l'économie, le bien manger, diverses choses. Et je pense que tout ça, il faut qu'on l'exprime sur Paris parce que je pense que sur Paris, notre présence a beaucoup plus d'importance et d'impact. Forcément, le nombre fait aussi quelque part la force. Et moi, je crois en cette force, donc je crois en ce 1er mai.
Des propos recueillis par notre consoeur Anne Pinkson du sel de France Bleu Bourgogne. Nous avons donc posé la question au chef de file de la CGT, Philippe Martinez, à l'aube de cette fête du travail. Appelle-t-il, lui, au Rassemblement Général? Voici sa réponse.
C'est toujours mieux quand on montre une volonté d'agir ensemble. Après, évidemment, personne ne veut récupérer personne. Mais je pense qu'il y a une base revendicative commune qui est suffisamment large et importante pour qu'on puisse défiler ensemble, côte à côte, les uns derrière les autres. C'est la fête internationale du droit des travailleurs. Et donc c'est la journée phare dans l'année pour mettre en avant les exigences sociales. Et cette année, plus particulièrement, puisque c'est une occasion importante de fédérer les mécontentements et puis de proposer des alternatives. Donc oui, elle a c'est une journée particulière dans ce paysage social.
Et notons qu'à Paris, au moins deux cortèges parisiens donc sont prévus, l'un avec la CGT et Solidaire notamment, l'autre organisé par la CFDT, la CFTC, l'UNSA et la FAGE. Première division visible donc. Alors ce 1er mai sera aussi une journée de mobilisation pour les forces de l'ordre dans le cadre là de leur travail. Elles ont déjà arrêté quelques personnes en amont des manifestations. À Paris, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, a décidé de mobiliser 7400 policiers et gendarmes, car il évoque la possible présence de casseurs, Rosalie Lafarge.
1000 à 2000 activistes radicaux sont attendus, selon le ministre de l'Intérieur, peut-être renforcés par des personnes venues de l'étranger et des gilets jaunes radicalisés. Christophe Castaner maintient donc ses consignes, mobilité, réactivité et interpellation systématique des fauteurs de troubles, quitte à dénombrer des blessés.
Un blessé, qu'il soit manifestant ou qu'il soit policier, est toujours un blessé de trop. Mais c'est vrai que la fermeté implique effectivement que nous repoussions, que nous interpellions, que nous arrêtions ceux qui précédemment pouvaient partir de la manifestation. Donc ça va jusqu'au contact physique quand c'est nécessaire pour mettre un terme à ces moments de violence.
Surtout qu'avec une possible convergence des luttes entre syndicats et gilets jaunes, les cortèges s'annoncent plus fournis que ces derniers samedis.
Une des difficultés, c'est que vous avez un nombre plus important de personnes et donc il est effectivement plus facile pour ces ultras de se noyer dans la masse, de sortir, de frapper, de se remettre dans la masse.
Et plus difficile pour les forces de l'ordre d'intervenir sans faire de dégâts. Pour éviter ces situations, les contrôles sont multiples aux abords de Paris, dans les gares ferroviaires et routières. Les vérifications sont également nombreuses dans tous les endroits qui pourraient servir à cacher du matériel dangereux, rappelle le préfet de police de Paris, Didier Lallemand.
Nous avons effectivement, et je le confirme, engagé des vérifications dans les halls d'immeubles, dans toute une série d'endroits. de manière à ce que le phénomène traditionnellement décrit de gens qui surgissent et se munissent d'un certain nombre de ces armes par destination puisse être anticipé le plus possible.
Les 584 commerces, bars et restaurants qui se trouvent sur le parcours du cortège intersyndical parisien ont également été appelés à fermer boutique.
Et les rassemblements par ailleurs seront interdits dans certains centres-villes en France, à Caen ou à Lyon par exemple. L'incertitude toujours au Venezuela. Les autorités accusent l'opposition d'avoir fait une tentative de coup d'État et plus particulièrement Juan Guaido. L'opposant hier était entouré d'un groupe de militaires. Quelques-uns le soutiennent maintenant. Dans la foulée, hier toujours, des affrontements entre manifestants et forces de l'ordre ont eu lieu, faisant 69 blessés au moins, pour une situation toujours aussi confuse ce matin. Et cela pourrait recommencer, ces manifestations en tout cas, au vu des dernières déclarations de chaque camp. Benjamin Delisle.
Après avoir gardé le silence une bonne partie de la journée, Juan Guaido s'est finalement adressé à ses compatriotes dans la soirée. Il invite ses partisans à revenir dans la rue comme prévu ce mercredi 1er mai. L'opposant estime que ce 30 avril a été historique et que ce n'est pas un coup d'État mais une rébellion pacifique qui est en marche. En face, Nicolas Maduro est aussi sorti du silence à peu près au même moment. Il a annoncé l'ouverture d'une enquête contre ce qu'il estime être une tentative de coup d'État. Elle a selon lui lamentablement échoué et il assure qu'à peine une vingtaine de militaires ont rejoint l'opposition. Derrière les discours, la situation est toujours aussi floue. Si l'un et l'autre revendiquent le soutien de l'armée, on ne sait toujours pas combien de militaires ont rejoint Juan Guaido. Le haut commandement semble quant à lui toujours fidèle à Nicolas Maduro. Beaucoup attendent donc que ce 1er mai apporte des réponses et des précisions. Tout dépendra du succès des mobilisations prévues par les deux camps un peu partout au Venezuela.
Benjamin Delisle, correspondant de RFI à Caracas pour France Culture. Il a promis de se tenir toujours aux côtés du peuple. Naruhito est devenu officiellement cette nuit le 126e empereur du Japon. Il succède ainsi à son père Akihito qui avait abdiqué hier. Un peu plus à l'ouest, en Corée du Sud, l'ancien secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, vient de prendre la tête d'une nouvelle agence nationale de lutte contre la pollution de l'air. Elle s'est aggravée ces dernières années dans le pays, en partie à cause des produits polluants venus de la Chine voisine. La mission climatique et diplomatique s'annonce, disons, assez difficile pour l'ancien chef des Nations Unies, Frédérico Jardias.
Ban Ki-moon affirme vouloir dédier le reste de sa vie au problème de la pollution de l'air. La Corée est parmi les pays de l'OCDE l'une des plus grandes victimes de la pollution aux particules fines, a-t-il déclaré lors de l'inauguration du nouveau Conseil national pour le climat et la qualité de l'air. L'ancien chef de l'ONU s'est dit triste de voir des gens qui envisagent sérieusement de partir vivre dans d'autres pays parce qu'il est devenu difficile de respirer en sécurité ici. La Corée du Sud connaît en effet cette année sa pire crise de pollution de l'air. En mars, la concentration de particules ultra-fines a atteint pendant 12 jours un niveau jugé dangereux pour la santé, ce qui a obligé les Coréens à rester calfeutrés chez eux et a provoqué un immense ras-le-bol populaire. L'Assemblée nationale a même évoqué un désastre social pour voter une série de lois qui permettent l'accès à des fonds d'urgence, notamment pour installer des purificateurs d'air dans les écoles. À Séoul prolifèrent les Kids Cafés, des salles de jeux en intérieur pour les enfants. Selon des études officielles, plus de la moitié de cette pollution vient de la très industrielle Chine voisine, ce que Pékin refuse vigoureusement de reconnaître. Ban Ki-moon devra donc convaincre à la fois les industriels sud-coréens de moins polluer l'air, tout en lançant une difficile coopération sur le sujet avec les pays voisins.
Frédérico Jardias à Séoul pour RFI et France Culture. Le Parti travailliste au Royaume-Uni s'est mis d'accord sur la possibilité d'un second référendum à propos du Brexit, un deuxième vote populaire, et si la gauche n'obtient pas d'élections législatives anticipées, et si le gouvernement conservateur ne change pas de politique, voilà ce que disent les responsables de l'opposition. À un mois des élections européennes, aucun accord n'est encore trouvé à propos de ce Brexit.
8h09, vous écoutez France Culture, la suite du journal avec vous, Clara Lecoq-Réal, avec les européennes justement, et la suite de notre caravane.
La caravane qui dure toute cette semaine, à un mois des élections, une sorte de tour de campagne électorale dans les pays fondateurs de l'Union. Après l'Allemagne et la France, l'Italie. Ce matin, grâce à vous, Mathilde Imberti, bonjour.
Bonjour à tous.
Vous êtes notre correspondante à Rome. Mathilde, il n'y a pour l'instant de l'autre côté des Alpes pas grand chose, pas de grand meeting, peu d'effervescence autour de cette campagne. Et donc, un homme tire avantage de cette campagne, c'est le ministre d'extrême droite, Matteo Salvini. Pour lui et pour le pays, ces élections deviennent un test, Mathilde.
Oui, c'est un scrutin à test en Italie pour mesurer le rapport de force au sein de la majorité entre la Ligue et les 5 étoiles. Il pourrait précipiter la chute de la coalition, à minima provoquer un remaniement gouvernemental. Car toutes les enquêtes d'opinion vont dans le même sens. La Ligue engrange les profits. Elle est le premier parti d'Italie à plus de 30% des intentions de vote. Le mouvement 5 étoiles est à 10 points derrière, suivi du Parti démocrate, le centre-gauche. Sur la scène européenne, le parti de Matteo Salvini est avantagé sur le mouvement 5 étoiles, qui est flou dans ses affinités politiques. La Ligue, elle, a des alliés au sein du Parlement, le Rassemblement National de Marine Le Pen, comme l'AFD, l'extrême droite allemande, et une multitude de petits partis qui ont fleuri ici ou là dans l'Europe des 28. Matteo Salvini se présente comme le rassembleur et il célébrera avec les figures souverainistes européennes le 18 mai à Milan, chez lui, la clôture de campagne. Cette percée annoncée de la Ligue aura des impacts en Italie, mais aussi à Strasbourg. Le parti de Matteo Salvini pourrait devenir le deuxième du Parlement en nombre de députés derrière les conservateurs allemands. Ils sont 7 élus de la Ligue aujourd'hui. Si les intentions de vote se révèlent justes, la Ligue enverra 26 eurodéputés après le scrutin du 26 mai.
Alors Mathilde, Matteo Salvini lui-même ne devrait pas siéger. Pourtant, c'est bien lui qui est tête de liste dans toutes les régions en Italie, dans 5 régions électorales précisément, puisque l'on vote dans le pays par grande circonscription.
Oui, le pays est découpé en 5 grandes zones. Le ministre de l'Intérieur italien est tête de liste partout, comme un produit d'appel. Son ex-allié, Silvio Berlusconi, agit de même d'ailleurs, sans effet miracle pour lui dans les sondages pour l'instant. Berlusconi, candidat au Parlement européen à 82 ans, mais hier, la présentation des candidats de son parti, Forza Italia, s'est déroulée sans lui. Il a été hospitalisé. Silvio Berlusconi, qui appelle à voter pour son parti, pour faire couler le gouvernement actuel, c'est vous dire si les thèmes européens sont au centre des raisonnements. Dans les rangs de la droite, a noté aussi en Italie, curiosité, la présence de 2 Mussolini, la petite fille de Benito Mussolini, Alessandra, sur les listes de Forza Italia, et un arrière-petit-fils du Duce avec le parti d'extrême droite Fratelli d'Italia. Ils sont tous les deux en position éligible. À l'issue d'une campagne molle, tout juste animée par les déplacements de Matteo Salvini, les Italiens se rendront-ils aux urnes? En 2014, le taux de participation était à 58%, un peu plus que la moyenne européenne.
Merci beaucoup Mathilde Imberti, à un mois de ces élections. Notez que demain, la caravane nous emmènera au Luxembourg et aux Pays-Bas. Les européennes se dérouleront donc, je le disais, dans 4 semaines. Et en France, une liste de plus est venue s'ajouter aux autres hier. Une liste gilet jaune, déposée par le chanteur Francis Lalanne et ses 78 colistiers. Elle a été validée. Ils comptent emporter entre 3 et 7% des voix.
Nous en venons maintenant, Clara, à la mort d'une grande actrice, une excentrique du cinéma.
C'est ainsi que l'on décrit ses amis de scène, hommage unanime à Anémone. La comédienne est décédée hier à l'âge de 68 ans. Elle était l'inoubliable Thérèse, évidemment, dans Le Père Noël est une ordure, au sein de la troupe du Splendide, aux côtés notamment de Thierry Lhermitte.
Joyeux Noël, Pierre.
Ah, c'est pour moi ?
Oh ! Oh ! Ah ! Oh, une serpillière, c'est formidable, Thérèse. Je suis ravi, écoutez.
Non, Pierre, c'est un gilet.
Ah oui ? Je suis ravi, Thérèse. Je suis ravi.
Et point de vue coloris, parce que j'avais pensé à joli qu'un maillot de bleu marine, comme je sais que vous aimez bien. Puis je me suis dit, dans ces temps-là, ça changera.
Anémone populaire et capable de jouer autant la comédie que le drame. Comédienne dans près de 80 films, elle a remporté le César de la meilleure actrice en 88 pour Le Grand Chemin du réalisateur Jean-Louis Hubert, film dans lequel elle joue une femme en manque d'enfants. César, pour lequel elle a refusé de parler du film, d'en faire la promotion. Bonjour Lauriane Avard.
Bonjour.
Anémone était une femme sans tabou et pleine de convictions.
Ouais, une actrice très très loin des paillettes, du glamour. Bien au contraire, un milieu, le monde du cinéma, qu'elle finit totalement par rejeter. Et Anémone, on la connaissait pour avoir des mots très virulents, sans filtre. Le Festival de Cannes, disait-elle, c'est le salon de l'agriculture, mais en beaucoup moins chaleureux. Alors c'est pour ça, après 49 ans de carrière au cinéma et au théâtre, en 2017, elle se retire après une dernière pièce, « Nœud au mouchoir » de Denis Scherrer. Et cette même année, sur France Culture, elle confiait son dégoût à Joël Gaillot dans l'émission Une saison au théâtre.
J'en ai ras-le-bol, j'en ai absolument ras-le-bol, ça fait longtemps, mais maintenant j'ai enfin de quoi vivre sans bosser. Festival de Cannes, ça m'a complètement coupé le plaisir.
Mais le théâtre, c'est pas le cinéma, c'est pas pareil.
Ça devient un peu pareil, pognon, entrée, audimat, machin, fait chier. Moi, j'avais fait ça pour être artiste et pas pour pognon promo, non. Et donc, pognon promo, moi, ça me gave.
Et plutôt que de se laisser engraisser par cette grande machine cinématographique, Anémone était une citoyenne engagée. L'actrice et comédienne préfère se produire sur la scène de la rue, au cœur des débats, des chahuts. Elle devient membre d'Attaque en 1998, dès la création de cette association altermondialiste pour la justice sociale et environnementale, écolo de la première heure, en 2003. Anémone participe même à une action d'arrachage de colza dans la Marne, aux côtés d'autres comédiens, Lambert Wilson, Benoît Delépine, quelques politiques aussi, comme Noël Mamère. Alors vous l'entendez, Anémone, non, ce n'est pas juste le personnage de Thérèse dans Le Père Noël est une ordure. C'était une femme lucide, sacrément grande gueule, mais passionnée, quitte à tout lâcher pour ne pas se fourvoyer. Et peut-être que si Anémone rejouait Le Père Noël est une ordure, aujourd'hui, en 2019, ça s'appellerait plutôt SOS Planète Détresse.
Bien vu et merci beaucoup Lauria Navarre. Anémone, Anne Bourguignon de son vrai nom, avait 68 ans. Le ciel s'annonce de plus en plus nuageux en ce 1er mai, en ce mercredi, avec une perturbation qui arrive par les côtes atlantiques et les côtes de la Manche. Les températures, elles remontent un tout petit peu avec 14 degrés ce matin en moyenne de Brest à Besançon en passant par Paris, 15 degrés à Lyon, 18 à Bordeaux, 20 degrés à Perpignan.